Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique sur Radio Territoria.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, le magazine coproduit par Radio Territoria et la DGALN, la Direction Générale de l'Aménagement, du Logement et de la Nature. Et aujourd'hui, nous allons parler de rénovation énergétique des bâtiments publics. Nous verrons en particulier les modalités du plan de rénovation énergétique des bâtiments et comment cela concerne les collectivités qui nous écoutent. Et pour cela, j'ai à mes côtés Pierre Falconier, qui est chef de projet rénovation énergétique des bâtiments publics, DHUP, DGALN. Bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir sur ce plateau du MAC de l'urbanisme. Et à vos côtés, eh bien, on retrouve comme toujours Michel Fellep qui est à nos côtés. Bonjour Michel.
Bonjour Johanna.
Je rappelle que vous êtes chargée de mission animation territoriale DHUP, DGALN et vous répondrez aux questions de nos auditeurs en fin d'émission. Et maintenant que les présentations sont faites, je vous propose d'attaquer avec la thématique du jour.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, la thématique du MAG.
Alors vous connaissez tous les enjeux de la lutte contre le changement climatique et la nécessité d'agir dès aujourd'hui pour limiter les consommations d'énergie et le rejet de gaz à effet de serre. État, collectivités, entreprises, citoyens, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser plus particulièrement aux réductions d'énergie dans les bâtiments. Alors il faut savoir que l'ensemble des bâtiments, les bâtiments résidentiels, c'est-à-dire nos logements, et les bâtiments tertiaires, donc les bureaux, les commerces, représentent 44% de la consommation énergétique de la France. C'est donc un enjeu très important pour la lutte contre le changement climatique. Et c'est pourquoi les ministres de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires ont lancé en avril 2018 le plan de rénovation énergétique des bâtiments. Un des volets de ce plan concerne les bâtiments tertiaires et nous allons parler en détail avec notre invité Pierre Falconier. D'abord Pierre, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'enjeu de ces réductions d'énergie pour les bâtiments tertiaires et les collectivités territoriales ?
Oui, bien sûr. Alors peut-être pour commencer, deux chiffres que je peux vous donner pour montrer en fait l'importance de cette consommation des bâtiments tertiaires et l'importance d'agir sur ces bâtiments-là. Le premier, c'est le chiffre d'un milliard de mètres carrés. Les bâtiments tertiaires en France représentent un milliard de mètres carrés. Donc c'est un pan conséquent de notre surface de bâtiments en France. Et ces un milliard de mètres carrés, ils consomment un tiers de la consommation d'énergie des bâtiments. Donc pour agir de façon globale sur le domaine du bâtiment et effectivement atteindre nos objectifs de lutte contre le réchauffement climatique, on est obligé d'agir à la fois sur les logements et à la fois sur les bâtiments tertiaires, évidemment. Et à l'intérieur de ces bâtiments tertiaires, sur ces 1 milliard de mètres carrés, on a 380 millions qui concernent les bâtiments publics, 100 millions qui concernent les bâtiments de l'État et 280 millions qui sont occupés par les collectivités territoriales. Donc les collectivités territoriales ont effectivement un rôle majeur à jouer dans la réduction de la consommation énergétique de ce parc tertiaire. Rôle majeur également, puisque le bâtiment est en fait un important consommateur dans les collectivités territoriales. On estime qu'à peu près les bâtiments sont responsables de 76% de la consommation énergétique des communes. Donc c'est un chiffre qui est très, très élevé. L'essentiel de la consommation des communes vient des bâtiments. Et en termes de budget également pour les collectivités territoriales, on est à peu près à une masse budgétaire de 10% dans le budget d'une collectivité hors masse salariale. Donc la consommation d'énergie, la facture énergétique représente 10% du budget d'une collectivité territoriale, donc un enjeu environnemental, économique, aussi un enjeu social, puisque souvent les bâtiments des collectivités territoriales sont propriétaires d'écoles, de collèges, de lycées. Donc il y a un enjeu d'éducation en fait aussi aux problématiques de consommation énergétique des bâtiments pour faire passer des messages aussi à la nouvelle génération. Et puis aussi c'est une nouvelle génération qui est de plus en plus engagée pour le climat, qui est demandeuse d'avoir des bâtiments dans lesquels ils étudient, plus conformes aux exigences environnementales en matière de transition écologique.
Il y a également peut-être un enjeu d'attractivité, puisqu'aujourd'hui, un bâtiment, notamment des bureaux, sont plus attractifs lorsqu'ils sont verts.
Exactement, c'est ce qu'on appelle la valeur verte des bâtiments qui permet effectivement à une collectivité territoriale de pouvoir valoriser son bien quand il atteint des performances énergétiques élevées et à l'inverse, vraiment une dégradation du bien quand le niveau de performance énergétique n'est pas au standard d'aujourd'hui.
Alors, les objectifs posés sont évidemment progressifs. On ne va pas demander tous ces mètres carrés de tertiaire de devenir verts du jour au lendemain. L'objectif fixé, c'est 2050. C'est notamment celui qui a été fixé dans le décret tertiaire. Comment avez-vous prévu de suivre ces obligations au fil de ces 30 ans ?
Alors effectivement, donc on a une obligation qui est à l'horizon assez lointaine, 2050, et le secteur tertiaire doit faire 60% d'économie d'énergie d'ici donc 30 ans. C'est l'objectif qui est inscrit au bâtiment tertiaire pour que la France atteigne ses réductions de gaz à effet de serre. Et donc c'est la part que doit prendre le secteur tertiaire dans cet objectif commun. Et en fait, on a une exigence donc d'économie d'énergie à cet horizon 2050, mais qui s'échelonne dans le temps. Et on a un premier jalon qui est fixé à 2030, où il faudra atteindre 40% d'économie d'énergie, et un second jalon qui est fixé à 2040, où il faudra atteindre cette fois 50% d'économie d'énergie. Donc on a un dispositif en trois étapes. Une première étape en 2030 avec 40% d'économie d'énergie, une seconde en 2040 avec 50%, et l'objectif ultime, entre guillemets, de 2050 avec 60% d'économie d'énergie.
Pour que vous puissiez suivre tous ces objectifs, tous ces chiffres, vous récoltez des données, vous demandez aux collectivités ou aux acteurs de renseigner tous ces chiffres ?
Oui, exactement. Alors, pour bien préciser, donc, ces objectifs, ils sont inscrits dans ce qu'on appelle une obligation d'économie d'énergie. C'est donc le décret tertiaire que vous parliez, dont vous mentionnez, ou qu'on appelle aussi éco-énergie tertiaire, et qui oblige en fait les bâtiments tertiaires d'une certaine surface à faire ces économies d'énergie, à atteindre les objectifs que j'ai fixés. Donc, on est sur des bâtiments de plus de 1000 m². Et uniquement du secteur tertiaire, donc c'est une exigence qui ne concerne pas les logements, hein, qu'on met à part vraiment dans ce dispositif d'obligation, mais qui concerne l'ensemble des activités tertiaires, donc c'est très large, et ça concerne massivement donc les collectivités territoriales, puisque tout le service public est une activité tertiaire, et donc l'ensemble des collectivités territoriales sont concernées par ce dispositif, quand elles ont une école, par exemple, qui fait plus de 1000 m², en fait, c'est le seuil hein, d'assujettissement au décret tertiaire. Et on a effectivement en fait un dispositif de suivi de cette obligation qui permet donc d'anticiper en fait les obligations fixées à 2030, 2040 et 2050. Et ce qu'on demande à toutes les personnes qui sont soumises à cette obligation d'économie d'énergie, de renseigner en fait leurs données de consommation annuelles sur une plateforme qui s'appelle Opéra, qui est mis en œuvre par l'ADEME, qui est en cours de constitution et qui va permettre de pouvoir recueillir chaque année la consommation énergétique des bâtiments qui sont assujettis. Et donc chaque année, on pourra voir si la consommation a diminué, si au contraire elle a augmenté, et voir si on se rapproche des objectifs, alors la première horizon 2030 et puis jusqu'à 2050. Donc c'est une plateforme qui est mise en place par l'ADEME. Elle est déjà sur internet, vous pouvez taper opera.ademe.fr et vous tomberez sur la plateforme. Elle n'est pas encore tout à fait finalisée, donc vous ne pouvez pas encore renseigner vos données de consommation, mais vous pourrez le faire à partir de mars de l'année prochaine à peu près, pour renseigner vos données de consommation. Il y a une première échéance assez importante à avoir en tête, c'est celle du 30 septembre 2021. On va demander à ce que chaque assujetti ait renseigné ses données de consommation pour l'année 2020. Donc voilà, c'est une première échéance à avoir en tête qui est importante. Et donc il faudra renseigner la plateforme Opéra sur ses données de consommation énergétique de 2020 avant le 30 septembre 2021.
Vous parliez des objectifs qui sont d'ailleurs plutôt ambitieux, tout comme les quelques obligations. Tout cela, on fait l'objet d'un décret qui est paru le 23 juillet 2019. Est-ce que vous pourriez nous préciser d'ailleurs les objectifs, on a commencé un peu à en parler, mais aussi les obligations ?
Oui, très bien. Effectivement, le décret donc, qui est paru a vraiment précisé les choses et ses objectifs et puis ses obligations. D'abord, sur le périmètre des bâtiments qui sont concernés, on s'occupe que des bâtiments tertiaires qui sont assez grands. Et le « assez grand », entre guillemets, c'est les bâtiments qui sont supérieurs à 1000 m². Voilà, c'est déjà des bâtiments conséquents. Par exemple, pour les collectivités territoriales qui sont propriétaires d'écoles, on estime qu'à environ 40% des écoles sont supérieures à 1000 m². Donc ça veut dire que 60% des écoles ne sont pas concernées par ce dispositif-là, puisqu'elles sont inférieures à 1000 m². Donc voilà, donc ça c'est la première chose à avoir en tête sur les bâtiments qui sont concernés. On a vraiment de très rares exceptions en termes d'assujettissement. La première exception, c'est sur les constructions provisoires. Donc un bâtiment qui a vocation et une durée de 2 ans n'est pas concerné évidemment par le dispositif. La deuxième exception, ce sont les lieux de culte. Les lieux de culte ne sont pas concernés par cette obligation d'économie d'énergie. Et la dernière exception, c'est tous les bâtiments à des fins de défense et de sécurité nationale qui ont également une dérogation et qui ne sont pas concernés par cette obligation. Globalement, pour être vraiment très concret, cette obligation, elle concerne les commerces, les bureaux, tous les établissements scolaires, les équipements sportifs également, les gymnases, les piscines, on a les salles de spectacle, les musées, les restaurants par exemple, les hôtels, les établissements de santé, tout le domaine de la logistique, des gares, aérogares, data centers. Voilà, ça fait un nombre de bâtiments assez conséquent et on voit que presque l'ensemble des bâtiments des collectivités territoriales sont concernés dès qu'ils font plus de 1000 m². Ensuite, sur l'atteinte des objectifs donc aux trois horizons, 2030, 2040 et 2050, on a une particularité pour les bâtiments qui sont déjà performants. Et il est illusoire de pouvoir dire à un bâtiment qui est déjà performant de faire 60% d'économie d'énergie. Et à ce moment-là, il est possible d'atteindre ce qu'on appelle une valeur seuil, qui est justement un garde-fou pour dire, pour les bâtiments déjà performants, on ne leur demande pas d'atteindre 60% puisque c'est clairement impossible. Mais par contre, on leur demande d'atteindre une certaine valeur qu'on considère comme un bâtiment étant performant à l'heure actuelle et donc qui est fixé par arrêté. C'est vraiment une approche sur cette obligation qui est vraiment très pragmatique et simplifiée, où on mesure l'atteinte des objectifs vraiment sur la facture énergétique des bâtiments des assujettis. Et on regarde en fait une année de référence qui est fixée soit entre les années 2010 et 2020. Et on regarde donc l'évolution des diminutions d'énergie par rapport à cette année de référence. Et on regarde vraiment sur la consommation réelle des bâtiments à la facture. Donc c'est pour ça que c'est... très précis, on est vraiment sur la consommation réelle et en même temps assez simple, puisque c'est une donnée que l'ensemble des collectivités territoriales disposent dans leur facture énergétique et que donc elles ont juste à renseigner sur la plateforme Opéra pour pouvoir démontrer qu'elles atteignent ces objectifs d'économie d'énergie.
Je voudrais qu'on parle des ressources disponibles maintenant pour nos auditeurs qui sont en collectivité. Quels sont les appuis possibles pour eux et est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'un accompagnement ?
Oui, alors la réponse est oui, et à plusieurs titres. Le premier, vous pouvez déjà avoir un ensemble de ressources documentaires sur ce dispositif-là d'éco-énergie tertiaire, donc d'obligation d'économie d'énergie dans les secteurs tertiaires. Justement, sur le site que je vous mentionnais de la plateforme de l'ADEME qui permet de recueillir les données de consommation, donc opéra.ademe, vous pouvez trouver en fait des documents de présentation du dispositif, des plaquettes de communication qui permettent d'appréhender plus facilement ces obligations, également une aux questions qui peut permettre de répondre à des questions éventuelles que vous avez sur le dispositif. Vous pouvez vous-même aussi poser vos questions grâce à une adresse internet qui est inscrite sur le site si jamais vous n'avez pas votre réponse dans cette foire aux questions. Donc ça, c'est la première chose qui est vraiment une question de compréhension du dispositif. Également, vous avez à disposition les services de l'État dans les territoires qui peuvent vous répondre à vos questions. Donc typiquement, les directions départementales des territoires et de la mer au niveau départemental, ou alors les directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement au niveau régional. Donc n'hésitez pas à les solliciter et à poser vos questions auprès d'elles sur le dispositif. Et ensuite, vous avez vraiment globalement tout un dispositif de soutien et d'accompagnement pour la rénovation énergétique de vos bâtiments qui vous permettront d'atteindre ces objectifs. Donc le premier dispositif et qui fait l'objet de beaucoup de communication actuellement, c'est le plan de relance, France Relance comme il a été nommé, puisqu'il y a 1,3 milliard d'euros qui sont consacrés à la rénovation énergétique des bâtiments publics aujourd'hui dans le plan de relance. Donc c'est une aide qui concerne à la fois les conseils régionaux, les conseils départementaux et le bloc communal, donc les collectivités, les intercommunalités. C'est une enveloppe qui va être distribuée donc sur l'année 2021 via la dotation de soutien à l'investissement local pour le bloc communal ou la dotation de soutien à l'investissement des départements pour les conseils départementaux. Donc c'est un financement qui est assez classique, qui est déjà existant depuis quelques années, qui est délivré par les préfets. Donc voilà, donc les préfets sont vraiment vos contacts sur cette aide financière que vous pouvez solliciter pour pouvoir bénéficier donc d'un appui financier sur la rénovation énergétique de vos bâtiments qui vous permettront d'atteindre les objectifs dont on a parlé. Vous avez également d'autres accompagnements financiers qui existent. Vous avez des aides de la Banque des Territoires qui permettent d'avoir notamment des prêts à des taux très attractifs sur le marché. Vous avez tout le dispositif des certificats d'économie d'énergie. C'est un dispositif qui oblige les fournisseurs d'énergie à faire des économies d'énergie à leurs clients. Donc les collectivités territoriales sont éligibles à ce financement et peuvent se faire financer des travaux via ce dispositif-là. On a également des fonds européens. Vous avez également aussi des aides de l'ADEME qui permettent de financer quelques travaux. Donc là, vous pouvez contacter votre direction régionale de l'ADEME qui vous permettra d'accéder à ces financements. Et enfin, et j'allais dire c'est peut-être le plus important, au-delà de l'accompagnement financier, il y a également un accompagnement technique qui est mis en place, puisque réaliser des travaux d'économie d'énergie, faire des économies d'énergie sur son parc de collectivité, ça demande également des moyens techniques et pas seulement financiers. Et donc pour cela, vous avez notamment le programme ACTE, ACT2E, qui est mis en place. C'est un programme pour l'action des collectivités territoriales en faveur de l'efficacité énergétique, qui est mis en place par la FNCCR, c'est la Fédération nationale des syndicats d'énergie, et qui permet la mise en place d'un dispositif de soutien aux collectivités territoriales. Il a plusieurs axes. Le premier, c'est d'avoir une cellule de soutien aux collectivités. Donc vous avez concrètement un numéro sur lequel vous pouvez appeler. Vous avez des personnes qui vous répondent sur vos questions techniques, juridiques, financières. Vous avez accès également à des formations, à des ressources techniques. Et puis surtout, vous avez un accès à un financement de vos projets de rénovation via des appels à manifestation d'intérêt qui sont transmis régulièrement par la FNCCR. Vous en avez un là qui est en cours justement sur la rénovation du bloc communal. Et vous pouvez candidater à cet AMI jusqu'au 29 janvier de l'année prochaine. Donc voilà, je vous invite vraiment à regarder le programme ACTE et à candidater à ces appels à manifestation d'intérêt. C'est vraiment une opportunité sans précédent pour favoriser la rénovation énergétique du parc des collectivités territoriales. Je citerai aussi le dispositif des conseillers en énergie partagée qui est porté par l'ADEME, qui permet de mutualiser des techniciens, des ingénieurs à l'échelle de plusieurs collectivités pour venir justement conseiller les maîtres d'ouvrage sur les économies d'énergie à mener, détecter aussi des pistes d'économies d'énergie, hein, puisque c'est aussi l'enjeu, il faut détecter un gisement pour pouvoir faire ces fameux 60% d'économies d'énergie d'ici 2050. Et puis je terminerai par la citation d'une plateforme numérique de ressources qui est présente sur le site de la Banque des Territoires. Donc vous pouvez y avoir accès sur Internet, c'est un site de ressources qui est assez complet, qui dispose d'un certain nombre de cahiers des charges, de ressources, qui est vraiment pensé pour les collectivités territoriales. Et vous pouvez y trouver, je pense, pas mal de réponses à vos questions.
Vous avez cité quelques objectifs à 2021. 2021, c'est demain, ça arrive très très vite. Malgré tout, on est d'accord pour dire que pour les collectivités qui sont un peu en retard sur le sujet, ce n'est pas trop tard.
Oui, il n'est pas trop tard, évidemment, pour passer à l'action. Il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard non plus pour respecter effectivement cette exigence calendaire du 30 septembre 2021. Voilà, vous pouvez commencer le travail dès l'année prochaine. La première chose à faire, c'est vraiment de connaître ses consommations énergétiques et donc de regarder ses factures d'énergie, de savoir combien on consomme d'électricité, de gaz, et puis pouvoir le renseigner sur la plateforme Opéra. Et c'est vraiment de toute façon la première étape pour mener une démarche d'économie d'énergie et de savoir sur quel bâtiment il est le plus pertinent d'intervenir et pour avoir une stratégie immobilière globale de rénovation énergétique.
Merci beaucoup Pierre Falconier pour toutes ces précisions sur la rénovation énergétique des bâtiments publics. Je rappelle que vous êtes chef de projet rénovation énergétique des bâtiments publics à la DHUP et à la DGALN, donc au ministère de la Transition écologique. On passe maintenant aux questions de nos auditeurs avec vous Michel.
Le MAC de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, on répond à vos questions.
Et on a quelques interrogations sur le sujet de cette rénovation énergétique.
En effet, Johanna, on a quelques questions. La première a été posée par Claire, qui est secrétaire de mairie, qui nous a dit qu'elle était secrétaire de mairie dans une petite commune avec un projet de transition. Elle nous demandait qui appeler pour de l'aide et du financement. Je pense que c'était posé en début d'émission. Je pense que Pierre, tu as bien répondu avec plusieurs contacts possibles. à cette question-là. Et donc, on va passer à la question de Sylvie, qui nous demande, par rapport à ce qui a été évoqué, donc bien établir consommations d'énergie, comment on peut déterminer l'année de référence, comment on choisit son année de référence pour la réduction de la consommation d'énergie.
Effectivement, c'est une très bonne question et c'est un choix important à faire. Et il faut, j'allais dire, bien réfléchir à quelle année de référence on se réfère. Le dispositif, en fait, a permis de laisser le choix à chaque assujetti de sélectionner son année de référence. La seule contrainte, c'est elle ne doit pas être antérieure à l'année 2010. Donc, il est possible de remonter jusqu'à l'année 2010, mais pas de prendre comme année de référence une année, par exemple, de 2005. J'allais dire qu'il y a deux possibilités, en fait, et deux notions à regarder avant de choisir son année de référence. La première, c'est de savoir, en fait, au niveau de quelle année vous avez à disposition les données de consommation énergétique. Donc peut-être que vous n'avez pas les données de 2010 parce que c'est trop vieux, vous avez perdu ces données-là, donc vous ne pouvez pas remonter jusqu'à cette année-là. Peut-être que vous avez des données de consommation énergétique que jusqu'à 2015. Et donc là, vous pourrez choisir entre 2015 et 2020 la meilleure année. Clairement et en toute transparence, l'objectif, c'est plutôt de choisir une année de consommation qui est plutôt élevée, qui correspond vraiment à une année pleine d'utilisation de vos bâtiments. Et ça vous facilitera l'atteinte des objectifs à l'horizon de 2050. Donc il y a vraiment une question d'abord de savoir à quelle année vous avez les données de consommation énergétique, puisqu'en 2010, on a peut-être perdu ces données de consommation. C'est le cas pour pas mal de propriétaires de bâtiments. Et de regarder pour prendre vraiment une année pleine de consommation énergétique qui est plutôt la plus élevée pour vous permettre de faciliter l'atteinte des objectifs.
On pourrait penser qu'au contraire, plus la référence est élevée, plus c'est difficile à atteindre, non ?
Alors non, puisque plus la référence est élevée, plus on a du gisement, en fait, d'économie d'énergie. Et effectivement, plus on a eu une utilisation qui, a priori, on ne retrouvera pas forcément sur les années suivantes, ou alors on sera au moins égal à cette utilisation qu'on a eue pendant cette année élevée. Donc c'est plutôt ce conseil-là. Après, c'est aussi, ça dépend vraiment de la stratégie de chaque assujetti. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment un choix, une question à se poser avant de sélectionner son année de référence. Et voilà, l'opportunité de laisser entre les années 2010 et 2020, c'est justement pour permettre ce choix. Et n'hésitez pas à prendre cette opportunité et à regarder quelle année est la plus pertinente pour vous.
À nouveau, au sujet de ces références, il y a une question de Albert, qui est conseiller municipal, qui demande comment savoir si on entre dans un seuil de consommation, si on a déjà effectué des travaux sur des anciens bâtiments, y a-t-il des ratios de consommation versus surface en fonction de l'âge des bâtiments ?
D'accord. Là-dessus, donc si vos travaux ont été réalisés entre les années 2010 et 2020, vous pouvez du coup les prendre en compte, en fait, dans l'atteinte de vos objectifs. C'est-à-dire, on vous conseille de prendre une année de référence qui est plutôt une année avant la réalisation de ces travaux-là, pour que justement vous puissiez déjà bénéficier des travaux que vous avez entrepris. Et évidemment, l'idée, c'est de bien valoriser ceux qui ont déjà mené des travaux de rénovation énergétique, et donc de prendre en compte les efforts qui ont été déjà faits par les collectivités territoriales et qui n'ont pas attendu cette obligation d'économie d'énergie pour passer à l'action. Donc du coup, là, le premier conseil, c'est vraiment de prendre une année de référence qui est vraiment postérieure à l'établissement de ces travaux. Et ensuite, si ces travaux-là vous ont permis d'atteindre, par exemple, s'ils ont été réalisés avant les années 2010, donc du coup, vous ne pourrez pas prendre une année de référence qui sera avant ces travaux-là. Par contre, si vous ont permis d'atteindre un niveau de consommation qui est très bas, et donc on est déjà sur un bâtiment performant, là, effectivement, vous pourrez aller, plutôt que de viser les 60% d'économie d'énergie, vous pourrez aller viser ces fameuses valeurs seuil qui sont le garde-fou pour les bâtiments qui sont déjà très performants. Et donc là, vous pourrez atteindre cette valeur-là. Et la manière de la calculer, alors je n'ai pas là aujourd'hui de réponse sur les ratios très précis de consommation en fonction du mètre carré. Par contre, ce que vous pourrez regarder, on a un arrêté là qui est en train d'être publié, qui va apparaître là d'ici quelques jours, qui fixe justement ces fameuses valeurs seuil. Et donc là, tout l'enjeu pour vous, c'est de regarder à quel niveau sont les valeurs seuil en fonction du type de vos bâtiments. Et est-ce que faire 60% d'économie d'énergie, ça vous amène à un plus bas niveau que cette valeur seuil? Et si c'est le cas, eh bien, du coup, vous pourrez uniquement viser la valeur seuil et vous arrêter à ce niveau de diminution de la consommation énergétique.
Alors, nous avons une question de Claude, qui est maire de Guest House. Je ne sais pas trop si ça se dit comme ça. Alors, qui est une question où il nous explique son programme. Il doit changer le chauffage fioul du bâtiment mairie-école, le chauffage électrique de la salle polyvalente, le chauffage fioul de l'église et le chauffage bois du presbytère. Il demande quelles sont les démarches à entreprendre auprès de quels organismes. Je ne sais pas s'il y a des choses à compléter par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, mais peut-être qu'on peut lui dire aussi s'il peut mutualiser le respect des obligations sur l'ensemble de ses bâtiments ou pas.
Tout à fait. Donc sur cette question de la mutualisation, la personne en question là, a vraiment raison d'agir en fait sur l'ensemble de ces bâtiments et pas d'agir ponctuellement sur l'un puis sur l'autre. Et on prévoit cette possibilité d'agir de façon massive sur un parc entier, et ça concerne les collectivités territoriales. Elles ont plusieurs bâtiments qui sont concernés par cette obligation. Et du coup, il est possible en fait de mutualiser les objectifs qu'on fixe là, bâtiment par bâtiment, à l'échelle d'un patrimoine immobilier. Donc pour une collectivité territoriale, elle peut décider d'atteindre les 60% d'économie d'énergie en 2050 globalement sur son parc, globalement sur l'ensemble de son patrimoine immobilier, et pas uniquement sur un bâtiment puis sur un autre. Concrètement, ça veut dire qu'elle peut faire 65% d'économie d'énergie sur un bâtiment et que 50% par exemple sur un autre. Donc voilà. Sur la question et les contacts, vraiment, les travaux que vous avez cités sont éligibles au financement que j'ai pu mentionner. Notamment, ils sont éligibles au plan de relance. Donc là-dessus, je vous recommande de solliciter votre préfet de département dès l'année 2021 qui pourra éventuellement mobiliser donc la dotation de soutien à l'investissement local pour financer ces travaux-là. Vous pouvez également bénéficier des certificats d'économie d'énergie et là directement auprès des entreprises qui vous posent ces nouveaux équipements.
Alors on a une question de Gaëtan sur les projets neufs. C'est une question qui demande s'ils peuvent être financés au travers de la DSIL du plan de relance dont tu viens de parler, mais peut-être qu'on peut dire aussi comment les projets neufs sont concernés par ces obligations.
Alors les projets neufs ne sont pas concernés donc par cette obligation d'économie d'énergie. On est uniquement vraiment sur les bâtiments existants à la date de publication de la loi Elan en fait, qui est la base législative de cette obligation d'économie d'énergie. Donc qui est tous les bâtiments construits avant le 24 novembre 2018 sont concernés par cette obligation, et ceux construits après le 24 novembre 2018 ne sont pas concernés. La construction neuve est évidemment un axe important de l'effort à mener pour réduire les consommations de gaz à effet de serre de nos bâtiments. Vous avez peut-être entendu récemment des annonces des ministres sur l'élaboration d'une nouvelle réglementation environnementale qui vient renforcer les exigences en matière de performance environnementale sur les bâtiments neufs. En termes d'aide au financement, la construction neuve n'est pas aidée dans le cadre du plan de relance et des 1,3 milliard d'euros que je vous ai cités. Donc vous ne pouvez pas à ce titre bénéficier de l'enveloppe exceptionnelle qui sera mise en place en 2021 d'1,3 milliard d'euros pour la rénovation énergétique des bâtiments publics. Par contre, on a toujours une DSIL, dotation de soutien à l'investissement local, classique entre guillemets, qui existe. Et c'est vrai que certains projets peuvent être aidés via cette dotation. Donc il est possible également de vous rapprocher auprès de votre préfet de département pour voir s'il n'est pas possible d'avoir un soutien financier sur ce projet-là dans le cadre de la DSIL classique entre guillemets et pas celle qui correspond à l'enveloppe inédite du plan de relance.
D'accord, on a d'autres questions sur le plan de relance et la DSIL. Donc pour ça, ils se rapprochent de la préfecture pour avoir leur réponse par rapport à leur cas particulier. Je ne vais pas rentrer dans les cas particuliers des questions posées par les auditeurs
là-dessus. Exactement. Dès que vous avez une question sur le plan de relance, votre bon contact est la préfecture de département avec qui vous avez sans doute l'habitude de dialoguer et qui est vraiment à la manœuvre pour distribuer ce financement de rénovation énergétique des bâtiments publics. Donc voilà, pour préciser les choses, sur les 1,3 milliard d'euros, vous avez 300 millions d'euros qui sont dédiés aux conseils régionaux, donc qui vont être gérés par les préfets de région, et vous avez 650 millions d'euros qui sont au niveau du bloc communal, donc via la dotation de soutien à l'investissement local, et 300 millions d'euros qui concernent les conseils départementaux via la dotation de soutien à l'investissement des départements.
Ok, et donc on va prendre une question de Christelle qui est chargée d'opération, qui demande si on a un ordre d'idée de la part des CE, des certificats d'économie d'énergie, dans une rénovation de bâtiments publics. Est-ce que tu as des éléments là-dessus ?
Oui, c'est une part variable évidemment, mais on a quand même quelques notions de coûts qui peuvent être pris en charge. Et avec les certificats d'économie d'énergie, on peut monter assez facilement à au moins 10%. Sur des opérations classiques de rénovation énergétique des bâtiments publics. Et on peut même aller au-delà de ces 10%, notamment grâce à quelques coups de pouce là, qui sont actuellement en place, notamment pour remplacer des chaudières fuel. Donc ça rejoint la question de l'auditeur précédemment et qui vous permettent d'avoir pour le coup là, un investissement, enfin un apport assez massif grâce au certificat d'économie d'énergie. Donc moi, le conseil que je vous donne pour les projets que vous souhaitez financer l'année prochaine, c'est évidemment de vous tourner vers le plan de relance et cette enveloppe inédite qui est assez conséquente, mais également de faire l'effort d'aller regarder ce financement des certificats d'économie d'énergie qui peuvent être mobilisés par les collectivités territoriales et qui peuvent vraiment permettre de compléter un financement et d'assurer le financement d'une opération de rénovation énergétique de bâtiments publics.
Ok, merci. Alors, on va peut-être prendre une question de Jérôme qui demande, parce que sa commune dispose d'un outil de suivi de la consommation énergétique, est-ce qu'il peut alimenter automatiquement la plateforme Opéra à partir de cet outil pour éviter une double saisie ?
Oui. La réponse est oui, c'est très important pour nous. Donc vous avez compris que dans le cadre du dispositif, on devait chaque année renseigner ses données de consommation. Donc c'est une exigence de reporting. Et pour faciliter ce reporting, on peut alimenter de façon automatique la plateforme Opéra et notamment l'alimenter grâce à des outils de suivi de consommation que vous avez peut-être déjà au sein de vos collectivités qui vous permettent d'avoir la donnée de consommation de l'ensemble de vos bâtiments. Et donc vous pourrez venir remplir la plateforme Opéra grâce à ces données et grâce à vos outils de suivi de la consommation énergétique. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose de très important pour nous et donc on est en train de mettre en place avec l'ADEME, l'interfaçage n'est pas encore prêt mais il sera prêt l'année prochaine et donc vous pourrez de façon automatique alimenter la plateforme Opéra grâce aux données que vous récoltez via des outils de suivi de la consommation.
Oui, ça répond aussi à la question de Jean-Luc qui vient de tomber, qui demande si la plateforme Opéra est disponible dès aujourd'hui, est-ce qu'on peut créer un compte dès aujourd'hui, donc je crois que tu as dit tout à l'heure que ce serait... mois de mars 2021.
Oui, exactement. La plateforme n'est pas encore totalement opérationnelle. Elle existe sur Internet et vous pouvez donc trouver des ressources documentaires sur opéra.adem.fr. Par contre, vous ne pouvez pas encore renseigner vos identifiants d'assujettis. Vous ne pouvez pas encore renseigner vos données de consommation. Ça sera possible à partir de mars-avril 2021.
Et on a encore pas mal de questions. Hein.
On a encore beaucoup de questions. Je pense qu'on ne pourra pas répondre à tout le monde. On a donc une question de Christophe, qui est maire également d'une commune dans le Gers, qui nous dit qu'ils ont construit, l'ancienne municipalité a construit une nouvelle mairie en 2014. Et qui demande s'il faut refaire le diagnostic pour l'énergie, je crois.
D'accord.
Je pense
Alors, plusieurs cas possibles. Déjà, est-ce que si la mairie mesure plus de 1000 m², donc elle est effectivement concernée par cette obligation d'économie d'énergie, si elle a été construite en 2014, ça veut dire qu'elle elle répond aux standards qui étaient aux standards énergétiques et environnementaux qui étaient la norme pour les constructions neuves à cette époque-là, donc ils sont déjà très élevés. Hein, c'était soumis à la RT 2012 pour ceux qui connaissent cette réglementation. Donc du coup, vous avez normalement un bâtiment qui est déjà très performant. Et typiquement pour ce bâtiment-là, vous pourrez plutôt viser la fameuse valeur seuil qui est présente pour les bâtiments performants et donc qui ne pourront pas évidemment atteindre les 60% d'économie d'énergie puisqu'a priori, votre mairie est déjà performante en termes de consommation énergétique. Par contre, la mairie est bien concernée par l'objectif d'économie d'énergie, donc il faudra bien renseigner les données de consommation dans la plateforme Opéra. Par contre, a priori, l'effort pour diminuer vos consommations énergétiques sera assez faible parce que vous disposez déjà d'un bâtiment très performant et l'effort sera quasi nul pour diminuer et atteindre la valeur seuil qui sera fixée par arrêté.
Et il y avait une question de Franck qui demandait si un bâtiment de type garage de 1500 m² avec des bureaux de 50 m² est concerné. Est-ce que tu sais répondre ?
Oui, alors c'est une problématique sur les sites mixtes où on a par exemple des locaux tertiaires, mais aussi des locaux industriels ou alors des logements. Et donc de savoir comment ces bâtiments sont assujettis au décret. La règle est assez simple, c'est que dès que les surfaces assignées à l'activité tertiaire font plus de 1000 m², alors les locaux tertiaires sont assujettis à l'obligation. Donc dans le cas où les bâtiments de bureaux mesurent uniquement 50 m² et l'autre surface du bâtiment est à usage industriel, et ben le bâtiment n'est pas assujetti à cette obligation d'économie d'énergie.
Et ce sera la dernière réponse et la dernière précision. Merci Pierre, merci Michel, merci à tous les deux. On va conclure ce numéro du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement consacré aujourd'hui à la rénovation énergétique des bâtiments publics. Merci Michel de m'avoir accompagné, d'avoir répondu aux nombreuses questions de nos auditeurs aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes chargé de mission animation territoriale DHUP DGALN et nous étions aujourd'hui avec Pierre Falconier qui est chef de projet rénovation énergétique des bâtiments publics DHUP, DGALN. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir posé vos questions. N'hésitez pas, on y répond toutes les deux semaines. On essaye, on fait le maximum. Et puis quand on ne peut pas, on le fait la fois d'après. C'est pas grave, on tient nos engagements en tout cas. Et c'est bien le principal. Pour ceux qui voudraient retrouver les précédents numéros du MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, direction le site de Radio Territoria pour retrouver tous les podcasts à la lecture ou au téléchargement. Restez bien à l'écoute de vos territoires sur Radio Territoria. Je vous dis à très bientôt.
Le MAG de l'urbanisme, de l'aménagement et du logement, une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique, à réécouter et à télécharger sur Radio Territoria et toutes les plateformes d'écoute habituelles.